Super. Merci Seigneur pour ce temps de culte, ce temps de message, de partage. Merci parce que tu bénis Paul maintenant. Merci, tu bénis ses paroles. Et merci parce que tu vas continuer à toucher nos cœurs encore. Amen.
Bien chers frères et sœurs, chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver et de vous revoir de face. Hein, parce que tout à l'heure, je vous voyais que de dos. Alors, j'essayais de deviner qui est qui en fonction de la longueur de vos cheveux, en fonction de la couleur, en fonction de la géométrie ou de la topologie des lieux. Et j'avoue que je commence quand même à avoir mes repères. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est un bel exercice. Je vous apporte les salutations toutes allemandes de l'Église évangélique libre de Berlin. En tout cas, il y en a plusieurs, mais... À l'occasion d'une visite familiale, j'ai eu plaisir à visiter une église évangélique libre, ce qu'on appelle plutôt des églises évangéliques comme nous, parce qu'en Allemagne, si vous entendez Evangelische Kirche, c'est en général une église protestante, donc luthéro-réformée la plupart du temps. Mais il y a des Freie Evangelische Gemeinde Kirche, qui sont des églises évangéliques libres comme nous, c'est-à-dire un peu plus confessantes, un peu plus engagées dans leur témoignage. Donc, si vous ne voyez pas tout à fait quel type d'église c'est, je vous invite à aller à Berlin ou autre part en Allemagne et à faire contact. Et voilà. C'est une expérience extraordinaire parce que vous êtes en communion avec les frères et sœurs, vous entendez certaines choses, certaines paroles. Bon, voilà, mon allemand n'est pas consistant, mais il y a comme la confirmation d'être dans une famille. La Bible s'ouvre, vous entendez l'exhortation et vous captez l'essentiel. Puis dans mon cas, vous priez, vous dites, mais Seigneur, si tu veux, tu peux me bénir que j'entende l'allemand. Est-ce que le Seigneur peut le faire? Mais voilà, on l'a lu dans les livres de missionnaires qui allaient par-ci, par-là et qui ne connaissaient pas la langue et tout d'un coup, paf! Se mettait à parler la langue du pays. Ça, c'est impressionnant. Moi, le Seigneur m'a donné une sœur qui parle parfaitement allemand, qui était à mes côtés, dont de temps en temps, elle traduisait. Elle avait l'interprétation instantanée. Donc, je vous retrouve avec grande joie. Je reprends la suite des séries de prédications. J'ai écouté pendant la semaine... avec intérêt le message que notre frère Fred Perrier nous a apporté dans le cadre de la série sur la vulnérabilité à accueillir comme une grâce de Dieu. Et ce matin, je veux prolonger les lignes de notre série en abordant le thème « Briser le pouvoir du passé ». Et particulièrement, je voudrais aborder le thème de la guérison des blessures du passé. Un chemin de libération douloureux, mais porteur de vie. Je voudrais vouloir en parler aussi bien aux plus jeunes comme aux moins jeunes. Chacun de nous porte en lui des blessures du passé qui sont survenues soit dans le milieu familial, soit à l'école, c'est d'actualité, toutes ces questions de harcèlement scolaire, de violence, qui ont poussé même d'ailleurs certains jeunes préados à mettre fin à leur vie. Soit au travail, peut-être que vous êtes placardisé en ce moment même, peut-être qu'on vous a assigné la place entre la machine à café et la photocopieuse, peut-être que vous êtes rentré et votre bureau n'est plus votre bureau. Peut-être que cela a eu lieu il y a longtemps, et peut-être que c'est ce que vous vivez. Donc c'est un sujet qui convoque nos émotions et pas forcément les plus réjouissantes. Je vous promets, je ne suis pas spécialisé dans la douleur. Hein, parce que la dernière fois que j'ai prêché, c'était les deuils et les chagrins. Vous devez dire, mais qu'est-ce qui se passe avec notre pasteur? Est-ce qu'il souffre à ce point qu'il nous parle constamment des douleurs et des souffrances? Je vais vous rassurer. Je ne pense pas que je sois en souffrance, mais il faut traiter les sujets de cette série. Donc, rien de personnel ici. Peut-être que c'est d'ailleurs aussi à l'Église. L'Église peut être, hélas, c'est une réalité aussi humaine, un lieu où il peut avoir des blessures. Un lieu où le passé peut ne pas passer. C'est peut-être dans votre club de sport ou dans votre association. Ce matin, nous allons parler de ces blessures. Pour certains, peut-être sont-elles encore béantes, pour d'autres, peut-être en cours de cicatrisation, mais dans tous les cas, jeunes ou moins jeunes, ces blessures qui, un jour, nous ont atteints, impactés profondément, eh bien, il nous faut les affronter, il nous faut les regarder. Certaines de ces blessures sont peut-être guéries, cicatrisées, d'autres peut-être pas. Mais elles ont impacté nos vies, que nous le sachions ou pas. Elles ont peut-être influencé la façon dont nous nous sommes perçus dans notre identité. Elles sous-tendent peut-être nos actions ou nos réactions. Et peut-être même, elles ont fait de nous des Vaubans, des personnes spécialisées pour construire des fortifications et pour que jamais on ne souffre plus et qu'on n'ait aucune vulnérabilité. Vous savez, quand j'ai visité, je pense, la citadelle de Sisteron, c'était l'une des premières citadelles construites par Vauban que j'ai visitées, avec un guide, et c'est incroyable, l'art de la guerre et tout ce qu'il a imaginé. Ces meurtrières à tel endroit, ce pont-levis à tel autre, cet endroit où on pouvait verser une marmite d'eau bouillante ou d'huile, ou bien d'excréments, de lisier, de porc, que sais-je encore. Enfin, tout est fait pour que vous n'attaquez pas la citadelle, pour que vous n'y pénétrez pas. Et peut-être parfois, dans certains domaines de nos vies, nous faisons tout pour que rien n'y pénètre, pour que rien n'y touche. Ce carapace, ça peut être le symptôme d'une blessure du passé qui n'est pas vraiment passée. Peter Scazzero, pasteur et auteur de nombreux ouvrages traduits maintenant en français, est l'un des auteurs chrétiens qui a beaucoup travaillé sur l'importance d'une spiritualité émotionnellement saine. Et nous avons construit cette série de prédications en nous inspirant du titre de son livre « Devenir un disciple émotionnellement sain ». Et ce matin, nous verrons qu'il est important de briser le pouvoir des blessures du passé parce qu'elles impactent notre relation à Dieu, elles impactent notre relation à nous-mêmes, elles impactent notre relation aux autres. J'aimerais encourager chacun de nous ce matin, dans la continuité de l'invitation à accueillir notre vulnérabilité comme une grâce de Dieu, non seulement à oser identifier, reconnaître les blessures de son passé. Alors, je ne vais pas faire de la psychologie, ni de comptoir, ni de la psychologie du tout. Si vous êtes comme moi, parent, vous allez vous dire, aïe, 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 c'est le dimanche où les parents vont prendre parce que on nous dit que tout s'est joué dans la toute petite enfance. Mais bon, ça va à peine mon propos. J'aimerais surtout nous encourager à apporter devant le Seigneur nos blessures de manière à pouvoir en sortir transformés. Peut-être ce matin, transformés, guéris. Peut-être dans les prochaines semaines, peut-être le début ce matin avec ce culte d'un travail de guérison. Ou alors l'aboutissement d'un moment, le Seigneur, comme ça, en ce kairos, vous rejoint, là où ça fait encore mal. Mon espérance, c'est que, apportant notre passé, ses cicatrices, ses blessures, devant le Seigneur, que nous en ressortions transformés pour vivre pleinement la liberté glorieuse des enfants de Dieu, celle-là même qui nous a été acquise par notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais partir d'une exhortation de l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, chapitre 12, les versets 17 à 21 qui ne vont pas s'afficher. Donc je vous invite à prendre vos Bibles dans vos différents supports, papier, digitalisé. Et nous allons lire la parole du Seigneur dans Romains chapitre 12, versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous faites pas justice vous-même, bien-aimé, mais laissez place à la colère. Car il est écrit, c'est moi qui fais justice, c'est moi qui payerai de retour, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des braises que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. C'est le premier point sur lequel j'aimerais m'arrêter. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Dans ce passage, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens vivant à Rome, en contexte païen donc, et il les exhorte à résister à la tentation de céder à l'engrenage vicieux qui consisterait à rendre le mal par le mal, à être transformé par le mal en malfaiteur, en faiseur de mal. Il y a risque, j'y reviendrai. Plus haut, l'apôtre Paul a invité les chrétiens à ne pas se laisser modeler, formater par la mentalité qui règne dans un monde où les repères de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qui est agréable à Dieu ne sont pas les marqueurs dominants. Pour cause, c'est un monde majoritairement païen. Et dans ce monde-là où tout va mal, et depuis longtemps maintenant, le cercle vicieux de la réaction au mal par le mal est presque la règle. Chacun veut faire régner sa loi et aujourd'hui, ne sommes-nous pas inquiets par le retour au plan même mondial de la tentation que c'est la loi du plus fort qui doit s'imposer au plus faible. Et bien dans la logique biblique et dans la pensée du Christ, ce n'est pas comme ça que les choses devraient marcher. Et c'est important de le dire parce que les personnes blessées blessent souvent les autres. Parce qu'elles sont prises dans cet engrenage du mal qui heurte, du mal qui blesse, du mal qui empoisonne la vie sociale. Mais s'inscrire dans un tel engrenage du mal et laisser le mal déterminer nos réactions, c'est in fine proclamer la victoire du mal sur le bien. La victoire de la rancœur, de la vengeance froide sur la justice. Pas seulement la justice divine au dernier jour. Au chapitre 13, l'apôtre Paul parle justement des autorités et des magistrats comme étant institués de Dieu et donc comme pouvant recourir nous aussi aux autorités pour qu'une justice, certes bien humaine, soit dite pour vaincre le cycle d'une vengeance en quelque sorte privée qui instaure finalement de manière dévoyée la loi du talion qui n'était pas, comme on ne l'a pas compris, une loi permissive de faire le mal à soi, mais déjà une loi limitative justement pour réguler la violence privée. Pour un œil, on pouvait décimer toute une maison. Alors, œil contre œil, c'est encore dur. Le Christ n'est pas encore complètement présent, manifesté. Il n'a pas encore changé de paradigme, mais déjà, ça mettait une limitation. Là où l'excès de la vengeance privée menaçait de trop. Paul n'envisage pas, dans une perspective chrétienne, que pour avancer dans sa vie, il faille laisser le pouvoir au mal, le pouvoir à nos blessures, le pouvoir à l'injustice. Il ne peut s'y résoudre. Il n'invite pas le chrétien à rester dans une posture passive, à subir le cours des événements comme une fatalité, tant s'en faut. Il nous invite, au contraire, à être dans une dynamique où nous agissons pour le bien afin de vaincre le mal par le bien. C'est comme si Paul disait, le pouvoir doit changer de camp. Ce n'est pas ce que j'ai reçu comme injustice qui doit guider ma vie et qui doit avoir le dernier mot. Ce n'est pas ma blessure qui doit me définir. Le chrétien le sait. Et plus que le savoir, le chrétien le croit. Le mal ne peut pas triompher sur le bien. C'est impossible d'accepter ça. Aussi, l'une des premières clés spirituelle que nous donne ce passage pour briser le pouvoir du mal, y compris donc dans le domaine des blessures de notre passé, c'est de refuser. C'est vraiment comme un pas de foi aussi. C'est de refuser que le mal ne nous transforme à notre tour en malfaiteur. C'est refuser d'entrer dans ce cycle, dans ce cercle vicieux. Non, je ne me laisserai pas transformer par le mal en malfaiteur. Ne te laisse pas vaincre par le mal, dit l'apôtre Paul. Donc, il y a cette possibilité. Et ne te laisse pas vaincre par le mal, me dit-il. Mais sois vainqueur du mal par le bien. Laisser la justice à Dieu est déjà difficile. Dans notre expérience du quotidien, souvent, nous avons envie de réagir, de répondre, de rétablir les choses par nous-mêmes, et c'est bien normal. Mais cela nous demande une certaine docilité dans la foi et un certain renoncement à nous-mêmes pour croire que Dieu qui sait, Dieu qui voit, aura le dernier mot. L'amour de Dieu nous invite encore ce matin à aller même plus loin. Ce que Paul le dit là, c'est quelque chose que le Christ a dit. Priez pour ceux qui vous haïssent, pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il ne s'agit pas de subir, mais il s'agit finalement d'être même dans une sorte d'agir subversif. L'espérance de Paul, c'est que par le bien, je vais finir par interpeller l'autre, rejoindre quelque part son humanité et pas seulement son animalité. Quand le Christ dit, si quelqu'un te donne une gifle, tends-lui l'autre joue. C'est parce que le Christ fait le pari que cette personne n'est quand même pas à ce point imbécile qu'elle va avoir une réaction en disant, mais comment ça? Je viens de lui donner une gifle, il me tend l'autre joue. Jésus ne va pas du tout du présupposé que la personne la prendra à nouveau. Là, on aurait un problème quand même. Si moi, je vous tends l'autre joue et que vous n'avez pas compris que vous la prenez, me fassiez un aller-retour, ça, je crois que j'aurais du mal. C'est pas vous, mais moi. Il y a des moments où je me dis, Jésus, il m'a sauvé moi, mais il a aussi pitié des personnes autour de moi parce qu'il y a des problèmes que j'aimerais parfois régler. Presque physiquement. Ça vous a jamais pris l'envie? Non, jamais. Rassurez-moi quand même. Ça va, pour ceux qui écouteront, ils me disent que si. Voilà. J'aimerais à grands pas survoler l'histoire de Joseph, qui pour moi illustre un itinéraire de quelqu'un qui a été injustement maltraité et qui va briser le pouvoir de ses blessures et de son passé. L'histoire est longue. Elle couvre, vous voyez, les chapitres 37 à 50 du livre de la Genèse. On a combien de temps pour lire ces chapitres-là maintenant ? Permettez-moi juste de faire un résumé. Au chapitre 37, le narrateur nous présente Joseph. Son nom, vous le savez, signifie « Dieu a ajouté ». Il n'est pas le premier, il n'est pas l'aîné. Il est l'un des 12. Il est parmi les cadets, d'ailleurs, son dernier s'appelle Benjamin, son petit frère. Joseph est le chouchou de son père. Il est son préféré. Ça me faisait bizarre de l'écrire parce que j'ai un fils qui s'appelle Joseph. Je me suis dit, on va croire que je parle de lui. Je parle du Joseph de la Bible. Hein. Tu m'écoutes. Fils préféré de son père. Il a environ 17 ans. Il est donc jeune. Mais il n'est plus tout à fait un gamin. Sa relation privilégiée et ses rêves de prince de ses frères, rêve qu'il partage d'ailleurs naïvement à ses frères, alimente une forte aversion de ceux-ci contre lui. Et à l'occasion d'une commission pour aller voir comment se passait le fait que ses frères étaient allés perdre le troupeau, son papa les a envoyés, le narrateur prend soin de nous dire d'ailleurs quelque chose. Hein, Joseph aimait rapporter à son père ce que faisaient ses frères. Donc vous imaginez les frères aînés, ils n'en pouvaient plus. Non seulement ils se promenaient avec cette tunique aux couleurs flamboyantes que son père avait faite pour lui et pas pour les autres, mais en plus, ils rapportaient tout ce qu'ils entendaient et tout ce qu'ils voyaient. Et non satisfait, il avait des rêves où il voyait ses frères se prosterner devant lui. Ça faisait beaucoup quand même. Alors là, ils l'ont vu arriver, ils se sont dit, voilà le faiseur des rêves, et voilà celui qui rêve d'être notre roi qui vient. Et ils ont fait un complot terrible. Ils ont décidé, par jalousie, les émotions, hein, ils ont décidé de le tuer. Ben finalement, ils vont se raviser, ils vont dire, non, abandonnons-le dans une citerne, au fond d'un trou. Sans eau, peut-être un vieux puits qui était asséché. Puis il se débrouillera bien, on verra bien hein, s'il s'en sortira. Et puis ils font un stratagème avec sa tunique, vous connaissez l'histoire. Mais finalement, passe par là des marchands étrangers qui vont en Égypte faire commerce. Et ils se disent, ah mais finalement il peut nous rapporter quelque chose. On va plutôt le vendre. Ils vendent Joseph, qui va se retrouver donc en Égypte. Chapitre 39, le narrateur reprend le fil de l'histoire et nous apprend que par la grâce de Dieu qui était avec lui, Joseph est devenu intendant de la maison de Potiphar, un haut fonctionnaire du Pharaon. Alors on a envie de se réjouir pour Joseph, en se disant, mais vous voyez, ils ont fait du mal, mais Dieu l'a béni. Et bien là, une autre épreuve va s'abattre sur Joseph, tout aussi injuste que la première. La Bible nous dit que c'est un jeune homme très beau, raffiné, et la femme de Potiphar se prend d'amour, enfin, si on peut appeler ça de l'amour, en tout cas le convoite. Et comme Joseph va refuser de partager son lit, elle va injustement l'accuser de tentative d'agression sexuelle, et il va se retrouver au fond d'une prison. Et là, au fond d'une prison, nous lisons encore un peu plus loin, chapitre 41, nous apprenons que Dieu était toujours avec Joseph au fond de la prison. Il trouve grâce auprès, on va dire, du régisseur principal, qui fait de lui un responsable auprès des autres prisonniers. Et au passage, on découvre qu'il a le don d'interpréter les rêves. Et alors les hauts dignitaires, les hauts fonctionnaires viennent de temps en temps raconter leurs rêves à Joseph, qu'il leur donne l'interprétation. Et au chapitre 41, c'est Pharaon qui rêve. Il ne comprend rien à son rêve. Des vaches grasses, des vaches maigres, etc., etc. Et il appelle tous les sages du royaume et personne n'arrive à résoudre l'énigme. Et on se souvient de Joseph, l'éprouvé au fond de son cachot, et on vient le chercher. Et là, le narrateur nous dit, Joseph avait 30 ans lorsqu'il se présenta à Pharaon, vendu à 17 ans. Vendu à l'âge de 17 ans. 13 ans dans une épreuve terrible et injuste. 13 ans rejeté par sa famille, abandonné injustement, vendu. 13 ans de chemin douloureux. Mais le Seigneur se souvient de Joseph. Et alors, il va interpréter le rêve du Pharaon. Et Pharaon va dire, je te nomme intendant en chef sur toute ma maison, sur tout le pays, il est devenu une sorte de premier ministre, chef du gouvernement. Quel parcours fabuleux! Quel itinéraire à 30 ans, le voilà chef du gouvernement de Pharaon. Et à partir du chapitre 42 jusqu'au chapitre 50, le narrateur va nous raconter avec un suspense incroyable. C'est vraiment du bel art de la narration. Vous pouvez lire ça. C'est vraiment incroyable. Et au chapitre 45, on aura le point culminant. Ce moment où Joseph va décider de dévoiler son identité à ses frères. Nous lisons les versets 1 à 15. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui se tenait auprès de lui. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit reconnaître de ses frères. Il se mit à sangloter, à pleurer. Les Égyptiens l'entendirent, toute la maison du Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, tant ils étaient saisis d'épouvante en face de lui. Joseph dit à ses frères, je note au passage, ce n'est pas la première fois qu'il les voit, ou que ses frères le voient, mais il n'avait pas reconnu. Je vous en prie, approchez-vous de moi. Alors ils s'approchèrent. Il leur dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour l'Égypte. Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Voilà 2 ans que la famine sévit dans le pays. Pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de rester en vie par une grande délivrance. En fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a fait père du Pharaon, c'est-à-dire il m'a établi au-dessus de la maison du Pharaon comme l'intendant. Maître de toute sa maison, gouverneur de toute l'Égypte, hâtez-vous de monter vers mon père, vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a fait maître de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder, tu habiteras au pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils, tes petits-fils, ton petit bétail et ton gros bétail et tout ce qui t'appartient, etc., etc. Il est important de voir quel chemin Joseph a parcouru. Quelles étapes il a dû traverser pour briser le pouvoir du passé et des blessures et des injustices du passé afin de choisir de retrouver une nouvelle relation avec les siens. Premièrement, Joseph a dû accepter la réalité de ses blessures. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Nous sommes souvent tentés de ne pas affronter la réalité des conflits, la réalité des injustices qui nous ont touchés, tentés de mettre les événements sous le tapis. Et je pense que ce qui est caché a pouvoir sur nous, jusqu'à ce qu'il vienne à la lumière. Je ne suis pas un fan de la toute transparence absolue de notre époque et du grand déballage de tout. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec le fait aussi de cacher ce qui ne doit pas l'être, en famille, en église, etc., etc. En tout cas, au niveau personnel, Joseph, il dit « Vous m'avez vendu ». Et plusieurs fois, au cours de ses rencontres avec ses frères, le narrateur prend soin de nous dire que Joseph pleurait. Ses émotions étaient vives en lui. Il n'a pas refoulé, il n'a pas réprimé. Et ces larmes, on ne peut pas les interpréter d'abord comme des larmes de joie, de retrouvailles. En fait, la première fois qu'il les voit, c'est pas facile, il n'est pas facile avec eux. Ils ne le reconnaissent pas, mais il va les faire marronner. Merci beaucoup. Et il va pleurer. Et j'ai le sentiment que ce sont vraiment des larmes qui font émerger en lui ce qu'il a vécu. D'ailleurs, à un moment donné, ses frères diront, quand son âme nous suppliait de ne pas le vendre, nous ne l'avons pas écouté. Joseph a affronté sa douleur et il a affronté ce problème familial, ce problème de non-fraternité. Dans son cheminement vers la guérison émotionnelle, il y a eu des larmes. Et la Bible nous en fait témoignage. Les blessures émotionnelles, frères et sœurs, peuvent provenir de plusieurs sources. Un passé douloureux, un traumatisme, des échecs personnels, des relations brisées en famille, au travail, ou que sais-je encore, etc., etc. Ces blessures invisibles, ces béances de l'âme sont réelles, sont importantes et affectent profondément notre bien-être. Et nous devons pouvoir les regarder en face pour en prendre conscience, ce d'autant que parfois, je l'ai dit en introduction de mon propos, elles peuvent opérer des mécanismes en nous, à notre insu, nous pouvons nous construire, nous positionner sans comprendre finalement pourquoi. Pourquoi j'ai toujours peur du conflit? Pourquoi je préfère me taire, ne jamais dire le fond de ce que je crois, je pense, pas peur du conflit? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon histoire familiale, personnelle, pour que j'ai autant peur du conflit? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi je n'accepte pas de me confronter à l'injustice? De quoi ai-je peur? Ou pourquoi je reproduis tel ou tel mécanisme? Quand vous étudiez les systèmes familiaux, c'est incroyable. Regardez Abraham, Isaac et Jacob, on retrouve des choses qui se sont répétées, reproduites. Et aujourd'hui, les sciences humaines nous aident à comprendre ce qui se vit dans les systèmes familiaux, dysfonctionnels également. On ne transmet pas seulement la foi, on ne transmet pas seulement du bon. Il peut arriver qu'on transmette aussi du moins bon. Et que cela se répète de génération en génération. Et d'ailleurs, la grâce du Seigneur fait que quand il nous parle, il dit « Je suis Dieu qui veut faire grâce jusqu'à la millième génération ». Vous voyez qu'il y a une solidarité entre les générations. Mais en même temps, il dit qu'il peut corriger jusqu'à la quatrième. Il y a une grande disproportion. Ça veut dire que son désir n'est pas de nous faire du mal. Jusqu'à la quatrième, mais là aussi il y a une solidarité. Est-ce que j'ai identifié mon histoire de vie personnelle? Est-ce que j'ai identifié des schémas répétitifs dans mon histoire de vie? Il y a des schémas de brisure de liens dans les familles qui se répètent de génération en génération. Le transfert des mémoires de division dans des familles qui se répètent de génération en génération. Des enfants naissent, ils sont pris en otage des problèmes de leurs parents, de leurs oncles, et on reproduit. La bonne nouvelle ce matin, c'est que ce n'est pas une fatalité. Le pouvoir du passé peut changer de camp. Encore faudrait-il accepter de vivre nos blessures devant le Seigneur, et c'est ce que Joseph, me semble-t-il, a fait. Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour l'Égypte. Et plus loin, il leur dira, ce n'est pas vous, finalement, qui l'avez fait. C'est Dieu qui l'a permis. Parce qu'il voulait faire quelque chose de bien. La deuxième clé, troisième peut-être maintenant, fonder et aligner notre identité sur Dieu et non sur nos blessures. Les blessures de notre passé peuvent fausser l'image que nous avons de nous-mêmes. Combien de fois ai-je écouté en pastoral, dans mon expérience pastorale au cours des églises où j'ai eu l'honneur de servir, des personnes complètement terrassées, incapables de se faire confiance, parce que le socle de confiance n'a jamais été érigé, consolidé. Des personnes qui luttaient avec ces paroles, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Terrible. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Tu ne seras jamais quelqu'un. Tu es nul. Tu es rien. C'est des paroles d'une violence inouïe. C'est une mort symbolique. C'est des paroles qui blessent. Vous êtes peut-être un homme, une femme qui n'a jamais connu ce qu'on appelle être validé, être confirmé. Je suis fier de toi, mon fils. Je suis fier de toi, ma fille. Je te confirme que tu as ceci, que tu as cela. Avec ma sœur, ce week-end dernier à Berlin, une petite anecdote, elle me disait, parce qu'elle a fait à manger un repas de chez nous, local. Et puis, je lui ai dit, waouh, je me régale là. Elle me dit, mais tu sais, un jour, papa m'a dit, ma fille, écoute-moi bien. Si un jour tu vas en mariage et que ton mari te répudie, je saurai que ce n'est pas à cause de la nourriture. Parce que je peux te dire que tu cuisines excellemment bien. Elle m'a ressorti cette affaire. Parce qu'elle a été validée, confirmée. Elle a 49 ans et elle se réfère encore à ce moment de sa vie où son père a mangé son repas et lui a dit, c'est un repas délicieux, tu es une femme qui cuisine délicieusement bien. Je tremble presque de prendre cet exemple parce que je me dis aujourd'hui, quand on dit ça, on dit, bah oui, bien sûr, c'était sexiste, c'est patriarcat, c'est pas ça le sujet, je vous en prie. Le sujet, c'est que nous avons besoin de validation. Et aussi, ce risque qu'on rencontre souvent de personnes qui, aujourd'hui, ne se définissent que par l'injustice, par la notion de victime. Ce n'est pas le sujet, mais si vous étudiez le wokisme, vous comprendrez que le wokisme est la coalition et la coagulation des souffrances de ceux qui ont été objectivement et historiquement soit invisibilisés, soit diminués, persécutés, niés à cause de leurs différences, quelles que soient par ailleurs nos convictions. Mais vous voyez, ce qui est dangereux, c'est que plutôt que de travailler à la guérison de ces souffrances, à la réparation de ces justices, on en a fait une idéologie. Et on en fait maintenant une identité. Mais mon identité, ce n'est pas noir. Quel qu'ait été ce que les Noirs ont vécu, ça ne fait pas mon identité. Je ne suis pas esclave. Mais mon identité, ce n'est pas l'orientation sexuelle qui est mon identité en tant que telle. Alors on a façonné cette notion d'orientation que je reprends avec beaucoup de prudence. Mais j'ai envie de dire, quand bien même, je suis en désaccord avec cette idéologie. Je ne peux pas définir l'autre à travers son injustice, ses choix. Et le risque, c'est que même venant dans l'Église et marchant sous le regard du Seigneur, nous restions dans une posture victimaire. Mes amis, quel que soit le mal que vous avez subi, et c'est douloureux, Dieu ne veut pas vous voir seulement ou vous reconnaît seulement comme victime. Il vous reconnaît comme victime, certes, mais vous n'êtes pas ce n'est pas votre identité. Victime n'est pas un statut figé, définitif. Et encore moins un passe-droit. Et encore moins un faire-valoir pour chambouler une société comme on est en train de le voir. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire de nos blessures? Il me semble que, comme dans l'histoire de Joseph, non seulement il veut nous dire qu'il voit nos douleurs, qu'il voit les injustices, mais sa méthode à lui de régler ça, ce n'est pas du tout par l'idéologie qui sépare les blancs, les noirs, les hommes, les femmes, etc. Ce n'est pas du tout sa méthode à lui. Et voilà pourquoi je peux intellectuellement questionner certaines positions du wokisme et combattre les excès de l'idéologie. Par contre, en tant que chrétien, notre identité, c'est celle d'enfant de Dieu. C'est celle de savoir qu'on n'est jamais abandonné et jamais réduit tout seul. Joseph a été vendu, mais il me semble que quand on lit son histoire, tout au long de son cheminement, il s'est toujours reconnu comme fils du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de son père Jacob. Et le narrateur, à chaque fois, nous dit « Dieu était avec Joseph ». Les yeux de Dieu étaient sur Joseph. Est-ce que je peux regarder mes blessures ce matin? Et est-ce que je peux reconnaître que malgré tout, si je suis là ce matin, j'ai survécu? Je ne vais pas dire comme on dit souvent facilement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Ça, si c'est une pensée comme ça, elle est presque magique. Mais j'ai survécu à cette injustice. J'ai survécu à cette blessure. Parce que Dieu m'a fait grâce, il était là. Il a recueilli mes larmes, il a recueilli ma plainte et il m'a dit, tu es enfant de Dieu. Je me souviendrai de toi. Il me semble que on peut trouver dans la posture de Joseph cette conviction et c'est d'ailleurs ce qu'il veut dire à ses frères et qu'il dira plus loin. Vous avez pensé en mal. Parfois on dit, vous avez fait du mal, Dieu a transformé le mal en bien. Je ne suis pas toujours d'accord avec cette traduction. Ils ont fait le mal. Ils ont pensé en mal. Ils ont agi en mal. Mais Dieu, dans sa souveraine grâce, a utilisé les mauvaises circonstances qui ont été infligées à Joseph pour un résultat qui, lui, allait être un résultat pour le bien de Joseph et à travers lui, le bien, non seulement de sa famille, mais de nombreux peuples. Au chapitre 50, au verset 19, Joseph leur dit, le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien. Ce n'est pas la même chose, il n'a pas changé ce mal-là en bien. Vous avez fait du mal et vous vouliez que je disparaisse. Mais Dieu, lui, il voyait ce qu'il allait faire. Est-ce que je laisse Dieu agir dans mes blessures? Est-ce que je laisse Dieu évangéliser mes blessures? Évangéliser mes profondeurs? Est-ce que je crois que d'une situation douloureuse, et injuste, Dieu peut encore en tirer quelque chose de bon pour moi et pour les autres. Joseph avait cette conviction. Un autre aspect, notre clé que l'Écriture nous donne, c'est la puissance du pardon. Au chapitre 50, donc c'est la fin du livre de la Genèse, Jacob est mort, il a été enterré, on a pris le temps du deuil. Mais les frères de Joseph étaient comme ça, ils tremblaient. Ils se sont dit, maintenant que le papa est mort, le patriarche est mort, il va régler ses comptes. On va sortir les couteaux. Et c'est un peu comme ça dans nos familles. C'est souvent quand les parents, parfois ça commence pendant leur vivant, mais c'est encore pire parfois quand ils ont disparu. C'est là où on sort sa calculatrice, on appelle son notaire, son avocat, et on ne se parle plus, on s'écrit par avocat interposé, et on sort les couteaux, et on y va. Il ne doit pas en être ainsi pour nous, enfants de Dieu, il me semble, tout en ayant recours à la justice si nécessaire. Mais les frères de Joseph avaient besoin d'être pardonnés. Joseph avait envoyé des signes, mais on n'a pas le temps, vous le relirez tranquillement le chapitre 50. À la fin, ils viennent voir Joseph. Jamais ils ne lui avaient demandé clairement pardon. Et même là, ils sont encore astucieux, ils vont presque le manipuler, mais Joseph n'est pas dupe. Ils vont lui dire, notre père, avant de mourir, a dit que il faudra que tu leur pardonnes. Mais Joseph a parlé à Jacob avant de mourir. Il lui a présenté ses enfants, il les a bénis. Il a béni Manassé et Ephraïm, Ephraïm Manassé. Et il a convoqué tous ses enfants et il leur a parlé. Et moi, je n'ai pas trouvé cette parole-là à l'adresse de Joseph. Alors, tellement ils avaient peur pour leur vie qu'ils ont demandé de manière déguisée et instrumentalisée le pardon. Joseph n'est pas responsable de leur manipulation. Il y a des gens qui vont vous demander un pardon pour vous manipuler. C'est la triste réalité humaine. Mais nous ne sommes pas là pour être responsables des autres, de ce qu'ils font. Joseph ne pouvait pas dire, comme c'est un pardon manipulé, fin, je vois bien leur jeu, ils ne sont pas sincères, moi je reste là. Lui, il est responsable de lui. Il a choisi de pardonner. Il n'a pas choisi de faire dépendre sa paix de l'action de l'autre. Combien sont bloqués, n'avancent plus parce qu'ils attendent que ce changement soit initié par l'autre. Combien de couples sont bloqués parce que chacun fait le pied de grue et personne ne veut se laisser transformer. On pense que c'est lui qui doit changer. Non, c'est elle qui doit changer. Il me semble que nous devons chacun être le signe, le premier signe de notre propre changement à l'écoute de Dieu. Joseph se dit, peut-être ils ont peur. Peut-être que leur demande de pardon à mon père, il ne m'a pas dit ça à moi en tout cas. Or, il a eu plein d'occasions, il pouvait me le dire. Tu sais, Joseph. Je comprends ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te le demande, mon fils. Tourne la page. Il ne l'a pas fait. Mais Joseph va leur pardonner. Joseph a expérimenté avec des larmes. Là encore, il a pleuré au chapitre 50. Quand il leur dit ça, Joseph se met encore à pleurer à chaudes larmes. Et il leur adresse des paroles de pardon. Le pardon ne signifie pas qu'il oublie. Le pardon n'est pas l'oubli. Le pardon n'est pas l'amnésie. Le pardon ne signifie pas qu'ils acceptent que ce qu'ils ont fait était bien. Le pardon est une libération. Joseph dit, je vous remets votre dette. Maintenant, je n'attends plus de votre part que vous me remboursiez cette dette. En grec, c'est ça, le pardon, la notion de dette. Il dit, pour moi, je n'attends plus rien de ça. L'affaire, pour moi, est close. Mais c'est lui qui a pris cette décision pour lui-même. Et il se libère. Et il leur dit, maintenant, je vais pouvoir prendre soin de vous. Je pense que voilà quelques clés, quelques exemples bibliques que nous pouvons avoir pour briser le pouvoir du passé, le pouvoir de nos blessures du passé. J'aimerais conclure en rappelant une autre parole de l'apôtre Paul, qu'on cite souvent, à mon sens, de manière décontextualisée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Peter Scazzaro raconte une histoire en tant que pasteur. Il était en souffrance émotionnelle, il était désagréable à la maison, ça n'allait pas. Et puis il disait à son épouse Géry, mais Géry, ce que je vis là, ça, ce n'est pas mon identité, je suis en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Elle disait, mais moi ce n'est pas ce que je vois. Je suis ta femme, je vis avec toi et je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas encore passées. Quelles sont ces choses qui sont passées? Et quelles sont ces choses qui sont devenues nouvelles? Et en fait, quand vous lisez le contexte, ce qui est passé, c'est l'inimitié qui nous séparait de Dieu. C'est la colère qui nous séparait de Dieu. C'est de ça que l'apôtre Paul parle dans ce passage aux Corinthiens. Il s'est réconcilié Dieu avec nous. Il n'y a plus d'aversion. Il n'y a plus de colère. Dieu a fait passer la colère. Ça rejoint ce qu'il disait en Romains 12. Laissez passer la colère, ça ne veut pas dire ne vous mettez pas en colère. Donnez un lieu à la colère. Et ce lieu, pour Paul, c'est le trône de grâce. Dites votre colère, laissez, vous êtes traversé par la colère, mais apportez-la devant le Seigneur qui, en son temps, interviendra. Et Dieu lui-même était en colère contre le pécheur. Non pas le pécheur en lui-même, à cause du péché. Et il a donné son fils Jésus-Christ afin de réconcilier l'humanité envers lui-même. J'ai entendu ce partage de paroles ce matin où on disait qu'il nous semble que Jésus veut être au centre de la vie de quelqu'un. Que Jésus soit au centre de nos vies à nous tous ce matin. Au centre de ses émotions, au centre de ce passé là où c'est encore douloureux. Que nous puissions ouvrir nos vies comme le tombeau s'est ouvert et nous sommes en train d'aller vers la fête de Pâques. Ce n'est pas le carême du poisson, de la viande ou de l'alcool, tout en respectant ceux qui ont ces pratiques. Mais c'est peut-être, aujourd'hui peut-être, tu dis, mais moi je ne fais pas carême, je ne sais pas quoi faire. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu peux prendre une nouvelle orientation. Tu peux ouvrir cette citadelle, ce qui était fermé, et laisser la lumière du Christ te rejoindre en profondeur et guérir cette souffrance qui te ronge ou qui t'a transformé à qui tu n'es pas vraiment. Le mal ne peut pas avoir le dernier mot. La mort ne peut pas avoir le dernier mot. L'injustice ne peut pas avoir le dernier mot. En Jésus, le ressuscité, le mal est vaincu par la vie. La mort est vaincue par la vie. L'injustice est vaincue par le juste. Et c'est pour ça que Joseph est une figure, une sorte de type qui anticipe Jésus. Lui aussi, il est innocent et injustement vendu par ses frères, comme Jésus a été vendu pour une poignée de pièces d'argent. Pour Joseph, c'était 20 pièces d'argent. Jésus, 30 pièces d'argent. Jésus a été faussement accusé, comme Joseph a été faussement accusé. Jésus a été mis à mort, comme Joseph a été mis à mort d'une manière symbolique par ses frères. Mais Dieu a relevé le juste, de même qu'il allait chercher Joseph au fond du cachot pour l'installer au sommet du gouvernement. De même, Jésus te voit là où tu en es aujourd'hui avec lui. Il veut te rejoindre et te relever pour que plus jamais les paroles qui ont été prononcées sur ta vie ne déterminent qui tu es. Pour que plus jamais les actes qui ont été posés sur ta vie injustement ne déterminent qui tu es. Et alors, tu pourras dire, oui, les choses anciennes sont passées. En Jésus, je suis une création nouvelle, réconciliée avec Dieu. 4 points donc que j'ai soulignés. VP, c'est la slide suivante. Affronter ses blessures, fonder son identité sur Dieu, imiter Jésus en expérimentant la puissance du pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés, qui n'est pas une injonction, mais un chemin de vie. Vaincre le mal par le bien. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nos regards se tournent vers toi ce matin à l'écoute de ta parole, à la lecture de la vie de ceux qui nous ont précédés, comme Joseph qui nous renvoie vers toi. Nous voulons nous rappeler ce que nous avons entendu déjà ce matin dans le temps de louange. Tu es venu pour ceux qui ont les cœurs brisés aussi. Et ce matin, tu veux rejoindre chacun de nous là où nous en sommes avec toi et tu veux visiter peut-être les lieux secrets de nos douleurs et des injustices que nous avons subies, et peut-être qui nous ont empêchés de prendre élan vers la vie, et peut-être qui aujourd'hui encore nous joue des tours et nous empêche d'être pleinement libres pour toi et avec toi. Seigneur, ce matin, nous voulons te demander que ton règne vienne dans ces lieux de souffrance et de douleur. Que ton règne vienne pleinement, puissamment, rejoindre et guérir les cœurs brisés. Donne par le Saint-Esprit la foi à celle ou à celui qui dit ce matin, Seigneur, je le veux, mais viens au secours de ma foi. Viens secourir un couple ce matin. Viens secourir une famille ce matin. vient secourir ton église ce matin. Tu es venu libérer les captifs. Seigneur, nous te donnons, nous te reconnaissons l'autorité sur nos vies. Pas seulement sur ce qui va bien aujourd'hui, mais sur ce qui va mal et sur ce passé qui parfois ne passe pas. Seigneur, prends que ton règne vienne, oui. Prends toute la place. Seigneur, les cœurs brisés aussi, c'est la situation de notre monde avec toutes ces inquiétudes et tous ces drames partout. Je ne veux pas sortir de ce culte sans te prier, Seigneur, pour ces lieux où des milliers d'hommes, de femmes se sont retrouvés engloutis sous des tonnes de béton. Ô Seigneur, nos cœurs souffrent pour la Birmanie, la Thaïlande et tous ces pays qui ont été si soudainement meurtris. Là aussi, viens rejoindre des cœurs brisés. Et viens soutenir les hommes, les femmes de bonne volonté et toute la communauté internationale qui manifeste sa solidarité. Permets, Seigneur, que des vies soient encore sauvées et secourues. Nous voulons prier pour la paix dans ce monde. Nous ne voulons pas nous relâcher de prier, Seigneur, pour toutes les souffrances qui ont lieu en terre d'Israël ou à Gaza. Nous ne voulons pas nous arrêter de prier, Seigneur, de te demander ton intervention. Pour que, conformément à tes promesses dans l'Écriture, les armes soient changées en instruments de travail. Nous ne voulons pas nous taire quand nous voyons les menaces dans le conflit, agression russe contre l'Ukraine. Là aussi, Seigneur, nous voulons te demander ton intervention. Tant de cœurs sont brisés. Tant d'enfants, tant d'hommes, tant de femmes ont vu leur vie basculer. Seigneur, prends pitié. Et pour nous qui vivons dans une société relativement paisible, donne-nous, Seigneur, d'user de cette paix relative avec responsabilité. Nous voulons te prier pour celles et ceux qui souffrent autour de nous. Fais de nous des porteurs d'une parole qui peut libérer, d'une parole qui peut relever, d'une parole qui peut éclairer. Merci en tout cas, Seigneur, pour la portion d'aujourd'hui. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ.